c'est avec Thierry Guerrier. Bonjour Thierry.
Bonjour Cécile,
bonjour Thierry. Vous voulez parler de la campagne des législatives? Je rappelle que c'est les 12 et 19 juin prochains et vous dites qu'il y a une campagne fantôme du gouvernement.
Alors campagne fantôme, je force un peu le trait, mais tout de même, je crois qu'à 9 jours du premier tour de ces législatives qui vont être déterminantes pour le nouveau quinquennat Macron, on peut se demander où est passé le gouvernement, à commencer par sa chef, la première ministre Elisabeth Borne. À part Bruno Le Maire qui essaye de valoriser dans les médias son bilan économique à Bercy, Gérald Darmanin est empêtré dans l'affaire du Stade de France. Papendia, hier, en visite à Marseille, dans l'ombre du président de la République, ne disait rien. C'était le silence. Bref, personne, nulle part, et surtout aucune déclaration politique d'ampleur, aucune offensive contre les oppositions. Comme si ces législatives ne devaient être qu'une formalité. Comme si la politique n'était qu'une corvée pour le gouvernement. Un seul exemple. On entend davantage ces jours-ci François Hollande, l'ancien président, critiquer le programme économique et les promesses de la NUP et de Jean-Luc Mélenchon, que les ministres de la nouvelle équipe ministérielle qui sont d'une discrétion incroyable. Disons-le tout net, ce gouvernement ne fait pas campagne.
Et pourtant, on a vu plusieurs fois la première ministre faire sa campagne dans le Calvados, par exemple.
Oui, bien sûr, les chaînes de télévision ont montré Elisabeth Borne au contact des électeurs de la circonscription qu'elle brigue en Normandie. Mais où est la chef de guerre politique à la tête des troupes de la Macronie face aux oppositions? Combien de fois s'en est-elle prise à Mélenchon, Le Pen et autres Wauquiez? La première ministre, en fait, technocrate discrète, s'expose très peu sur le terrain politique. Quand elle s'exprime, c'est pour se cantonner à la feuille de route qu'elle a fixée à son équipe, qu'elle répète comme un mantra, planification écologique, éducation, santé, le triptyque squelettique fixé par Emmanuel Macron et qui leur sert de programme législatif. Ça ne correspond pas à l'esprit de nos institutions. Le Premier ministre sous la Ve République, c'est le bouclier du président. Un autre exemple, dans l'affaire du ratage, du fiasco du Stade de France, Elisabeth Borne n'a pas vraiment défendu son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il a fallu que ce soit le président de la République lui-même, hier à Marseille, qui se fende d'une déclaration de soutien en disant « Les ministres, je leur fais confiance ». Elisabeth Borne, femme de dossier compétente, réputée comme telle, doit vite accélérer sa mue et s'imposer aussi en personnage politique.
Thierry Guerrier, vous venez de citer le président de la République, donc il menait bien campagne hier à Marseille, alors, non ?
Il était dans le fief de Jean-Luc Mélenchon, en effet, c'est tout un symbole pour aller parler école du futur et accompagner, il était de son nouveau ministre emblématique de l'éducation, Papendiaï. Ça oui, on peut dire, Patrick, que c'est faire de la politique, aller porter le fer sur les terres mêmes de son principal adversaire. Emmanuel Macron, discret jusque-là, a compris qu'à vouloir reproduire la non-campagne du premier tour de la présidentielle, à vouloir enjamber à nouveau ses législatives, il prenait le très gros risque de se voir privé d'une majorité suffisante à l'Assemblée pour mener ses réformes après les élections. Il est donc rentré dans l'arène. Ce n'était peut-être pas à lui de le faire, là encore, la Ve République. Mais les sondages favorables à la NUP, la coalition Mélenchon ne lui laissait plus le choix.
Oui, c'est vrai. Bon, on va en parler, tiens, de la coalition justement de Jean-Luc Mélenchon qui, dans les intentions de vote, et en tout cas qui occupe beaucoup le terrain.
Au 0826-300-300, Franck de Montpellier est avec nous. Bonjour,
oui,
Franck.
Bonjour Franck.
Oui, bonjour à tous.
Vous voulez justement parler de la NUP, hein, de l'alliance de gauche autour de Jean-Luc Mélenchon, qui apparaît assez haut dans les sondages. Hein.
Oui, alors, moi, après les sondages, je les prends un petit peu avec des pincettes. Parce qu'effectivement, que ce soit quand on était, on va dire l'ultra-gauche, hein, les islamo-gauchistes, tout ça, quand on était, assez loin dans les sondages pour la présidentielle, on peut s'apercevoir qu'une fois les résultats tombés, sur les trois principaux candidats qui arrivent, qui ont fait la différence avec les autres, on s'est bien aperçu que le seul qui avait été minoré dans les sondages, c'était Mélenchon.
Ouais. Hein, si dans la dernière ligne droite, il y avait une montée. Hein,
les 15 derniers jours. Pendant 6 mois, 1 an, ça a été Mélenchon, il ne dépassera pas 11-12, puis après c'était 13-14, et au final, il finit à 22. Ouais. Donc les sondages, c'est un peu comme dit l'autre, c'est un peu comme les... Comme l'horoscope, quand il est bon,
Là, c'est en plus particulier, ces sondages, parce que, évidemment, comme c'est élection circonscription par circonscription, ça ne veut pas toujours dire grand-chose, quoi.
Oui, et puis en plus, à l'arrivée, même si on fait, on va dire, il y a qu'à chaque législative, c'est comme ça, si vous faites 30... Moi, par exemple, je suis vraiment contre le Front National, ouais. mais ils font 30%, imaginons qu'ils font 30%, ils se retrouvent avec 3 députés et demi. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il, semble, bien que, il ouais. semble bien que M. Macron avait promis qu'il instaurerait une dose de proportionnelle. Ouais. Bon, une promesse de plus qu'il n'a pas tenue, après tout, après, ouais. on n'est plus à une près. Donc moi, la question que je voudrais lui poser, ouais. c'est à quand l'interdiction des sondages 3, 4, 5, 6 mois avant les élections? Qu'on laisse le peuple se faire son opinion, ouais. qu'on laisse les dirigeants politiques s'exprimer, présenter leur programme, et qu'on arrête de faire des prédictions autoréalisatrices en disant tout. Parce que sinon, après, on dit « Ah, oh, mais ça vote utile. Ouais. Oui, mais ce n'est pas un vote d'adhésion.
Ouais, » c'est vrai. Non, non.
Donc, ce n'est pas, 15 jours ou 3 semaines ou un mois avant les élections qu'il faut arrêter les sondages. C'est des mois avant. Pour que les, parce que là, vous pariez, effectivement. Sinon, on arrive à quoi? Bah, des non-campagnes. Alors, Macron, il fait pas campagne parce qu'il y a le Covid, parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Là, c'est les législatives, on fait pas campagne parce que, qu'est-ce que vous voulez qu'ils défendent comme, projet?
Oui, voilà, projet, projet, oui.
Donc, c'est les sondages qui font, à mon sens, qui font plus ou moins, qui dictent au peuple, au bon peuple, bah, si vous votez pour lui, bah, vous ferez 2%. Ouais. Voilà. Si vous votez pour lui, vous avez peut-être une chance de, et quelle que soit la couleur politique, je pense qu'on aurait tous intérêt à dire que, bah, parce qu'à part les instituts de sondage, ouais. et on est passé maintenant à 200 sondages par jour, donc je pense que c'est un petit peu exagéré. Donc voilà,
ouais, oui, un petit peu et surtout, vous êtes déçu qu'il n'y ait pas la proportionnelle, quoi. C'est bah, ce que je paraît, comprends aussi dans votre message. Quoi,
après, ils vont nous parler de démocratie, et puis au final, vous avez le peuple qui vote, encore une fois, à 30% pour tel ou tel candidat.
Ouais, qui n'est pas représenté.
Oui, oui. Ouais. Ouais. Et puis également, aux législatives, alors moi, je suis à gauche et je suis vraiment content qu'à la et notamment chez les insoumis, depuis des années, on met des assistantes maternelles, des aides-soignantes et tout ça. Et c'est pas seulement des CSP plus,
qui sont candidats.
Voilà, parce qu'il faudrait un petit peu que le peuple soit représenté pour de vrai.
Oui, c'est vrai, à l'Assemblée nationale. Merci Franck de votre témoignage. Allez, dans un instant, Sud Radio vous explique qu'on est un tout petit peu en retard là.
Oui,
allez,
c'est le Conseil d'État qui, c'est le contentieux des étrangers représenterait désormais 40% de l'activité des tribunaux administratifs. On en parle dans quelques instants avec un journaliste du Point qui a enquêté sur le sujet. Il est 7h46.